France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, qu'elle soit électrique, hybride, thermique, neuve ou d'occasion, quels sont les critères à prendre en compte pour acheter sa voiture? Il va falloir choisir en fonction de l'usage, de la fréquence d'utilisation, du type de route, sans oublier les critères esthétiques, écologiques, financiers. On se demandera, avec 60 millions de consommateurs, si les voitures électriques sont enfin devenues plus abordables. Et puis au fond, faut-il vraiment acheter une voiture? Élément de réponse avec nos invités qui attendent toutes vos questions et témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Fanny Guibert.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité individuelle. À la une de 60 millions de consommateurs, un dossier consacré aux voitures électriques enfin plus abordables, paraît-il. Vous nous direz ça tout à l'heure. Bonjour Grégory Galifi.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, vous animiez l'excellente émission Direct Auto sur C8 que j'avais le plaisir à regarder même si je n'ai pas le permis.
C'est vrai, merci.
Et on peut vous retrouver sur votre compte Instagram et sur votre chaîne YouTube éponyme consacrée à l'univers automobile et aux essais avec une vidéo publiée chaque jeudi. D'ailleurs, dans l'une de vos vidéos, vous demandiez à vos invités si l'électrique était un mensonge écologique ou une vraie révolution. Bonjour Aurélien Bigot.
Bonjour.
Vous êtes chercheur spécialisé dans la transition énergétique des transports, associé à la chaire énergie et prospérité, et vous aviez publié chez Tana « Voiture fake or not fake ». Alors, Grégory Galifi, pouvez-vous nous dresser un bref tableau de l'état du marché automobile? Comment ça va?
Ça va pas très bien. En ce moment, le marché automobile, depuis quelques années, notamment depuis le Covid, est en chute libre en termes d'immatriculation. Avant Covid, on était autour des 2 millions 100 véhicules neuf immatriculés chaque année, et aujourd'hui il manque, c'est ce que disent les constructeurs, 500 000 voitures. On est plutôt autour des 1,6 million.
1,6 million immatriculations de voitures particulières neuves en 2025, et c'est vrai qu'il s'est vendu 580 000 véhicules de moins qu'en 2019, donc avant la pandémie du Covid, comme vous le disiez. Et selon la plateforme Filière Automobile, il s'agit d'une vraie crise qui pèse sur l'industrie française et européenne.
Bah oui, c'est énorme. Vous imaginez 500 000, 600 000 voitures qui ne sont pas vendues. Il faut savoir que les voitures neuves d'aujourd'hui, ce sont les voitures d'occasion de demain. Donc ça pénalise tout le monde, ceux qui peuvent s'acheter des voitures neuves, mais ceux qui ne peuvent pas s'acheter des voitures neuves et qui comptent sur des occasions qui vont arriver sur le marché. Donc c'est énorme déjà pour le consommateur, et puis il y a un vrai problème pour les constructeurs. Ça veut dire que c'est un manque à gagner, et si on ne gagne pas d'argent, eh bien on a du mal après à réinvestir en recherche et développement, et donc on prend du retard.
Fanny Guibert.
Oui, après on peut se demander pourquoi ça ne se vend pas. Ça revient sur notre dossier aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, les voitures sont tellement chères qu'acheter neuf, c'est plus possible.
Donc, pourquoi sont-elles chères? C'est la question qu'il faut se poser aussi.
Exactement, mais on a quand même eu des discours qui nous disaient qu'il fallait faire des grosses voitures parce que c'était les seules rentables. Et on a abandonné les petites voitures, et c'est justement ce qui permet aujourd'hui à l'électrique de revenir, c'est avec des petites voitures, et peut-être accessibles, et peut-être donc achetables neuves.
Donc le prix, c'est vraiment toujours le principal frein à l'achat d'une voiture neuve?
Ah bah, ça reste quand même, quand vous voyez la plupart des modèles à 30 000 euros, ça fait réfléchir.
Aurélien Bigot.
Oui, en effet. Alors, il y a une analyse qui a regardé les causes de l'augmentation du prix des voitures neuves entre 2020 et 2024. Donc, c'était plus 24% pour le prix des voitures neuves, donc qui est passé de 28 000 euros à 35 000 euros. Et en gros, les différentes causes, il y a à la fois des causes qui ont été subies, par exemple des effets temporaires en lien avec l'inflation des matières premières, en lien avec le Covid, en lien avec la guerre en Ukraine, par exemple, l'inflation du coût de l'énergie, des réglementations. Ça, c'est plus 6%, donc un quart de la hausse qui est expliquée par ces éléments-là. Et ensuite, il y a la moitié de la hausse, plus 12%, qui sont liés aux causes finalement gérées par les constructeurs, c'est-à-dire leurs choix commerciaux, notamment le fait qu'ils soient montés en gamme. On sait par exemple qu'ils ont davantage de marge sur les véhicules les plus haut de gamme, davantage sur les SUV, etc. Et aussi ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire qu'ils ont été dans une situation où ils pouvaient augmenter leur prix sans vraiment finalement que ça les impacte eux, dans le sens où la demande était supérieure à l'offre, notamment en lien avec les pénuries qu'il y a pu y avoir sur certains composants. Donc c'est un moment où ils ont profité aussi de cette possibilité de fixer des prix plus élevés. Et puis enfin, il y a une dernière partie, plus 6%, qui est liée à des causes un peu hybrides, dont l'électrification, hein, qui peut aussi participer à la hausse du prix des voitures neuves. Mais c'est loin en tout cas d'être la première cause dans ce qu'on a observé ces dernières années.
Grégory Galifi.
Effectivement, la hausse, globalement, schématiquement, on dit que c'est plus 30% sur ces 5 dernières années. Alors, je rejoins ce qui vient d'être dit, hein, sur la hausse de l'énergie. Effectivement, ça, c'est une vraie cause de l'augmentation, mais quel que soit type de produit, que ce soit une voiture ou autre chose. Mais il y a aussi également la réglementation que subissent les constructeurs automobiles, notamment, vous savez, il y a des nouveaux systèmes qui sont mis dans les voitures qui sont obligatoires, le fameux ADAS.
Alors, les
ADAS, c'est tous les systèmes qui bipent dans votre voiture pour vous indiquer la vitesse, pour le franchissement volontaire de ligne, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est de la technologie qui est rajoutée dans les voitures, et la technologie, ça se paye, forcément. Donc vous avez ça. Il y a eu aussi un problème au niveau des composants. À un moment, il y a eu une pénurie des voitures. Je ne dis pas que les constructeurs n'en ont pas profité à un moment pour essayer de récupérer du cash, mais le cash, on en a besoin parce qu'on leur demande énormément de recherche et développement et d'investissement sur l'électrique, et certains constructeurs, on le voit, sur des groupes français comme Stellantis, aujourd'hui, ils sont dans le rouge. Renault, ça risque d'être compliqué également, parce qu'il y a eu de gros investissements qui ont été faits, qui ont été demandés pour aller sur l'électrification, pour une décarbonation, on est d'accord là-dessus, sauf que le marché n'est pas forcément au rendez-vous, et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des voitures. Vous avez Stellantis, ils sont en train de réfléchir. C'est 14 marques. Stellantis, ouais. C'est Peugeot, c'est Citroën, c'est DS, c'est Fiat, c'est Alfa, c'est 14 marques. Bon, c'est mondial. Et aujourd'hui, ils ont stoppé certains plans de développement parce qu'ils se disent, si on fait des voitures électriques sur telle et telle gamme, on ne va pas les vendre à l'instant T. Donc, ils réfléchissent à remettre des moteurs thermiques. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'il faut se mettre aussi à leur place.
Fanny Guibert.
Oui, moi c'était juste pour reprendre sur le fait de ces petites voitures qu'ils ont totalement abandonnées. On a vu plein de petits modèles qui sortaient du marché. Et encore une fois, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous serrez peut-être un peu dans une citadine, mais en tout cas, vous pouvez l'acheter. Tous ces gros machins qui sont sur les routes et qui sont hors de prix, bah, de toute façon, c'est inatteignable.
Les gros machins, c'est les SUV.
Oui, enfin, encore une fois, on n'est pas non plus anti-SUV, c'est juste qu'aujourd'hui, ça a quand même été les modèles les plus rentables pour les constructeurs, c'est bien pour ça que ça s'est développé. Alors, ils disent que c'est le côté domination de la route, etc. Voilà, il y a une histoire de prix quand même dans tout ça, et la disparition des petites citadines, et voire des mini-citadines, c'est une catastrophe pour le marché, et ils sont en train d'en faire les frais, et ils vont y revenir. On nous annonce je ne sais combien de lancements pour 2026-2027. Ils ont enfin compris qu'il fallait refaire des petites voitures. Il était temps.
Bah oui, en fait, par rapport à ça, ce qui me fait marrer, c'était le côté un petit peu caricatural de la chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est effectivement que si on se remet en 2012, vous alliez chez Fiat, vous aviez une Fiat Panda neuve à 7 900 €. Vous alliez chez Volkswagen, même année, vous aviez une Volkswagen Up à 7 990 €. Sauf que le fameux système de sécurité, les airbags en avant, sur les côtés, différents systèmes, ça prend de la place. Donc à un moment, le constructeur, il est obligé, même sur une citadine, de faire augmenter le volume pour faire rentrer la technologie dans la voiture. Et comme la technologie, elle découle des normes qui sont imposées notamment par l'Europe, eh bien à un moment, ils ne font pas forcément des miracles. On ne peut pas tout miniaturisé. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un vrai déficit de la voiture populaire, accessible, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Alors après, est-ce que les gens veulent forcément tous des SUV ? Non, parce que tout le monde ne peut pas forcément se les payer. Donc ça, c'est tout
et
à chacun.
Si certains en veulent, pourquoi pas ? Encore une fois, c'est pas...
La liberté, c'est la première chose.
On va pas dicter, mais il y a vraiment une pénurie là-dessus sur les petites voitures.
Alors tiens, arrêtons-nous sur la réglementation fiscale avec le bonus-malus, le malus écologique. D'abord, le malus bonus-malus applicable à l'assurance auto, Grégory Galifi, c'est un dispositif qui vise à moduler les coûts supportés par les automobilistes en fonction de leur comportement routier supporté par les automobilistes en fonction de leur de la manière dont ils conduisent. Et ça, ça pèse sur le budget.
Alors, y a différents types de mesures, il y a celle-ci, mais déjà le premier bonus-malus, c'est Grenelle de l'environnement, c'est Monsieur Borloo qui l'a mis en place, c'est arrivé le 1er janvier 2008 et ça a totalement bouleversé le marché. Parce que, à un moment, moi je suis pour la liberté, quelle qu'elle soit, il faut laisser de la liberté aux gens. Et le bonus-malus, eh bien, a induit un système incitatif. Là, on va bien sûr parler de la voiture électrique parce qu'il y a un très bon article dans 60 millions de consommateurs, mais c'est incitatif. Si vous enlevez toutes les aides, le marché s'écroule. Et donc, le bonus-malus a été incitatif d'un côté, et sauf que depuis 2000, ça fait 18 ans qu'il existe, il est toujours déficitaire.
Le malus écologique, c'est cette taxe à l'immatriculation applicable, appliquée aux véhicules émettant du CO2 au-delà d'un seuil défini par l'État. Depuis un an, le seuil a été abaissé de 118 grammes de CO2 par kilomètre à 112 grammes. Mmh. Le montant du malus débute à 50 euros. Il peut atteindre, ouais, j'ai été effaré, 70 000 à 80 000 euros pour les modèles les plus polluants.
Effectivement, et en plus, depuis 5 ans, vous avez le malus au poids qui se rajoute.
Oui, j'ai appris.
Ça, c'est le deuxième effet qui se coule.
Alors ça, c'est la taxe sur la masse. C'est une taxe qui s'applique aux véhicules dont le poids dépasse 1499 kilos. Et c'est une taxe qui est tout de même plafonné à 70 000 euros.
80 000.
80 000 désormais.
Et ce qui va se passer, c'est que dans d'ici deux ans, parce que les deux malus se cumulent, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes plafonné au malus maxi, donc ça veut dire 80 000 euros, mais d'ici deux ans, ce sera déplafonné, donc on pourra avoir des voitures qui seront malusées à 80 000 euros sur le malus CO2, et en plus, le malus au poids, et ça pourra monter à 110-120 000 euros de malus.
Mais quel type de voiture est malusée à ce point, Fanny Guibert ou Grégory Galifi?
Bah, c'est forcément des voitures qui sont lourdes. On parle à partir de 1500 kilos, donc c'est quand même des...
Les
SUV. Qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont lourdes aujourd'hui. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une inflation de la technologie dans les voitures, mais vous prenez une citadine, ça fait 1200-1300 kilos. C'est déjà assez lourd. C'était le poids d'une très grosse berline il y a 20 ans. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il y a une inflation de la techno, et donc ça, les voitures ont pris du poids.
Fanny Guibert.
On a quand même des voitures, enfin pour le coup, le poids, il faut quand même comprendre que, et c'est l'un des soucis, c'est que quand vous êtes dans une voiture, plus elle est lourde, plus vous allez consommer, ne serait-ce que pour faire avancer le véhicule. Donc c'est quand même un peu un souci, et donc c'est vrai que c'est on se dit pourquoi on n'a pas des voitures plus légères, parce qu'il y a eu quand même une augmentation du poids, qui à un moment il fallait que ça s'arrête, et donc c'est juste ça que ça visait à faire. Encore une fois, si vous roulez avec une très grosse voiture, vous allez consommer énormément de carburant pour faire avancer la voiture, pas pour vous faire avancer vous. Donc c'est bien pour ça qu'encore une fois, c'est une histoire d'usage et c'est pas la peine de rouler peut-être partout avec des énormes voitures.
Là, encore une fois, on est un petit peu dans la caricature. Je pense pas que les ingénieurs, vous savez, ils cherchent toujours à la performance. Un ingénieur, surtout en secteur automobile, cherche la performance en termes d'autonomie, en termes
non,
de tout.
Pas ils toujours, vont pas, ils ont pas il y a du design là-dessus, il y a des choses. Bah, quand vous avez le côté sensation de domination de la route, c'est pas une histoire de performance et d'économie.
Sensation de la route.
Mais si, c'est ressorti 120 fois sur les SUV, vous le savez bien.
Parce que vous savez que c'est souvent les femmes qui achètent des SUV parce qu'elles se sentent plus en sécurité. C'est pas de la domination de la route.
Ça rejoint ça.
Aurélien Bigot.
Alors, ce que j'allais dire sur le bonus malus, c'est qu'en tout cas, si jamais le marché finalement n'a pas des incitations, par exemple fiscales ou des réglementations, etc., on sait que les constructeurs ont intérêt à rester sur les véhicules thermiques, à aller sur les véhicules plus lourds, plus haut de gamme, etc., sur lesquels ils ont le plus de marge. Et donc ça, c'est un peu à l'encontre à la fois des objectifs environnementaux, qui finalement devraient nous guider plutôt vers les véhicules électriques, mais aussi des véhicules plus sobres. Mais aussi, finalement, pour le consommateur, on voit bien que le prix a beaucoup augmenté, en bonne partie en lien avec cette stratégie des constructeurs. Donc, c'est-à-dire que si jamais on veut que les véhicules de demain, ça a été dit par Grégory Galifi, ceux qui sont les véhicules d'occasion, qui sont le marché du neuf d'aujourd'hui, eh bien, il faut influencer le marché du neuf pour aller vers des véhicules plus sobres, qui sont aussi des véhicules qui sont moins coûteux, à la fois moins coûteux à l'achat, donc aujourd'hui sur le neuf et demain sur l'occasion, mais aussi moins coûteux à l'usage pour éviter d'avoir des véhicules qui sont trop coûteux et puis augmenter aussi une certaine précarité mobilité qui existe pour beaucoup de ménages quand même en France. Et donc c'est pour ça en tout cas que les interventions publiques sont particulièrement importantes dans ce marché.
Moi, je suis 100% d'accord là-dessus, dans le sens que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai manque de voitures populaires, ce que j'appelle des voitures essentielles. Mmh. Voitures qui vous permettent de vous déplacer. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 systèmes dedans qui bipent dans tous les sens. Il y a des gens qui ont juste besoin d'un véhicule fiable pour pouvoir aller sereinement travailler ou partir en vacances. Mais encore une fois, il faut que la réglementation s'allège et les constructeurs feront des voitures beaucoup plus simples parce que, effectivement, en fonction de l'usage, je pense que c'est aujourd'hui. C'est un vrai manque sur le panel de la proposition des constructeurs.
Et nous accueillons Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous avez l'air très enjouée, ma chère Christelle. D'où appelez-vous?
J'appelle de Corrèze.
Alors, quelle est votre question ou votre témoignage, Christelle?
Écoutez, moi je suis infirmière libérale et justement je suis en plein questionnement pour changer ma voiture. Donc, en ce moment, entre les malus sur le thermique et les bonus sur l'électrique, plus les bonus sur nos kilomètres qui sont valorisés en électrique, je pense à l'électrique. Mais du coup, on entend, mais non, faut pas acheter l'électrique parce que dans 3 ans, on ne sait pas comment sera le marché et c'est mieux de les électriques, de les prendre en location longue durée ou en location avec option d'achat. Donc c'est là où, en ce moment, je suis sur mon questionnement.
Fanny Guibert.
Oui, alors, je suis juste étonnée, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à l'évolution du marché? Très clairement, c'est vrai que la location est une bonne manière d'acheter de l'électrique, notamment par rapport à la dépréciation qu'il peut y avoir, mais comme un peu toute voiture qui sort d'une concession, ça perd beaucoup tout de suite. Non, sur l'achat d'une électrique, enfin, c'est un peu l'objet de notre dossier, c'est de donner un petit peu qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Et c'est vrai que si vous avez, en gros, les conditions pour recharger, que ce soit chez vous ou au travail, une fois que vous avez fait votre parcours, mais vous, si vous êtes infirmière libérale, ce sera plutôt chez vous. Il y a quand même désormais des autonomies et des possibilités de recharge, et c'est surtout la recharge plus que l'autonomie qu'il faut viser, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans notre dossier, où vous pourrez quand même, il y a quand même un coût, par exemple, à l'usage avec la voiture électrique, qui est a priori 3 fois moins cher qu'avec une voiture thermique. Donc pour vous qui circulez sans doute beaucoup, ça peut vraiment entrer en ligne de compte.
Grégory Galifi.
Alors effectivement, aujourd'hui, l'électrique, si on regarde le prix de l'électricité quand on recharge sa voiture, c'est beaucoup moins cher que mettre de l'essence dans son véhicule. Sauf que, on voit ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'ils ont déjà sorti une taxe au kilomètre sur les voitures électriques, qui, là, on commence, met à mal, si vous voulez, le côté économique de la voiture électrique. Et puis, il faut aussi se poser une question, c'est que si demain, tout le monde roule à l'électrique, en termes de TIPP, donc toutes les taxes liées au pétrole qui sont engrangées par l'État, il va y avoir un manque à gagner. Donc peut-être que, vous savez, les petits boîtiers Linky que vous avez à la maison, peut-être qu'à un moment, eh bien, quand vous allez brancher votre fer à repasser, vous allez payer, peut-être, aujourd'hui on est à 20 centimes le kilowatt pour votre fer à repasser, sauf que si le boîtier détecte que vous branchez votre voiture, ce sera peut-être 3-4 fois plus cher. Donc il y a ça aussi, il faut faire attention à ça.
Aurélien Bigot.
Oui, en tout cas, aujourd'hui, il y a eu récemment une étude du Club Automobile Roule qui comparait le prix des différentes motorisations à la fois pour les voitures neuves et pour les voitures d'occasion. Et en gros, la conclusion, c'était que sur le marché du neuf, donc si on achetait un véhicule électrique neuf, en effet, c'était plus coûteux sur l'ensemble de sa durée de vie, quelque part, même en comptant le fait que c'est moins coûteux ensuite à l'usage. Par contre, sur le marché de l'occasion, aujourd'hui, c'est la motorisation qui est la moins coûteuse. C'est-à-dire quand on prend son prix à l'achat et puis ensuite tous les coûts d'assurance, de l'énergie, etc. Donc aujourd'hui, l'achat du véhicule électrique d'occasion, c'est un choix qui est assez rentable, mais il y a un peu de problèmes ou de limites pour l'instant au développement du véhicule électrique d'occasion, c'est que pour l'instant, c'est un marché qui est assez peu développé parce que quelque part, c'est en retard sur le marché du neuf. Il faut que le marché du neuf soit suffisamment développé pour qu'il y ait ensuite des véhicules électriques sur le marché de l'occasion. Et puis, il y a beaucoup de questionnements, finalement, sur la durabilité des batteries. Et ça, je voudrais passer le message. C'est qu'aujourd'hui, on a des très bons retours quand même sur les durées de vie des batteries qui sont bien meilleures que ce qui était envisagé même par le passé. Donc, rassurer en tout cas les utilisateurs, ceux qui hésitent à passer le pas. En tout cas, il y a des bons retours d'expérience de ce point de vue-là sur la durée de vie des batteries. Après, bien évidemment, il faut aussi que les pouvoirs publics fassent leur part du travail, c'est-à-dire de développer notamment des outils pour mieux renseigner l'état de santé des batteries et justement rassurer les acheteurs sur ce marché de l'occasion.
Christelle, vous êtes éclairée ?
C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, les batteries sont... Il y a des batteries plus puissantes qui sortent, qui ne l'étaient pas il y a 3-4 ans. Et justement, alors j'ai entendu que par brise, moi, le côté petite voiture qui vont bientôt sortir en 2026 m'attire plus. Et le côté SUV, c'est pas pour le côté dominant de la route, mais que passer, être un peu plus haut d'assises, c'est plus agréable pour faire les tournées, monter, descendre des voitures. Pour nous, dans notre côté infirmier, c'est plus dans ce côté-là. Mais j'attends, moi, la sortie des voitures un peu plus petites, qui arriverait normalement courant 26, mais du coup ce serait du neuf. Et après, c'était le côté commercial des concessionnaires qui nous poussent plus à la location que à l'achat.
Justement, Christelle, reste avec nous. Après le disque, on abordera cette question du leasing, du crédit bail. Restez avec nous et vous pouvez continuer à nous appeler au 01 45 24 7000. On s'intéressera donc au dossier de 60 millions de consommateurs sur ces voitures électriques qui seraient devenues plus abordables. On se retrouve juste après avoir écouté les Fugees, Ready or Not, sorti il y a 30 ans déjà. 10h26. Oui, Grégory Galifi, ça nous rajeunit pas.
30 ans, ça me fait mal.
10h26 sur Inter.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake. Yeah. Those who correlate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you.
Les Fugees, interprétés Really or Not.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Et ce matin, dans Grand Bien vous fasse, comment choisir sa voiture, qu'elle soit thermique, électrique ou hybride, avec les journalistes Grégory Galifi et Fanny Guibert, rédactrice à 60 millions de consommateurs, et avec le chercheur Aurélien Bigot. Nous avions Christelle juste avant le disque, mais elle a dû partir faire sa tournée d'infirmière. Elle nous écoute sans doute dans sa voiture. Grégory Galifi, vous vouliez lui répondre.
Bah oui, absolument, parce qu'on lui a pas
sur
répondu.
Le choix de sa voiture future.
Mais c'est un très bon exemple parce que l'infirmière libérale, elle est en Corrèze, elle fait beaucoup de kilomètres et le fait de se poser la question si elle doit passer à l'électrique ou pas, notamment sur des petites voitures, il y a un vrai problème d'autonomie. Dès que vous roulez en voiture électrique, on a souvent cette espèce d'angoisse. Tous ceux qui utilisent voiture électrique, faut toujours tout planifier. Et si on prend un exemple, vous prenez aujourd'hui la voiture électrique la moins chère du marché, c'est la IC3. C'est une bonne petite auto. Elle est affichée à 19 990 euros. Avec la petite batterie, l'autonomie affichée en normes WLTP, on sait que les normes ne sont jamais respectées dans la vraie vie, c'est 213 km. Mais à l'usage, sur route, vous tombez à 160 km à l'usage. Et si vous faites de l'autoroute, vous allez tomber à 130 km. Donc c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question, c'est que Christelle, qui fait sa tournée, je pense qu'elle roule beaucoup, et sur une petite voiture électrique, c'est pas forcément le bon choix. Il faut sûrement, si elle veut passer à l'électrique, il faut qu'elle prenne un véhicule avec des grosses batteries, mais qui dit grosses batteries dit voiture plus chère.
Fanny Guibert, de 60 millions de consommateurs.
Oui, moi c'était juste pour lui dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre tout 2026. Il y a déjà, et c'est l'objet de notre dossier, pas mal de voitures. L'offre va encore augmenter, mais il y a déjà pas mal de voitures intéressantes. Et contrairement à ce que vous dites, moi je pense qu'il y a vraiment, pour la plupart des trajets quotidiens, et même peut-être pour une infirmière libérale, je serais curieuse de savoir combien elle fait de kilomètres par jour, mais 120 km par jour dans les pires conditions que vous décrivez, c'est déjà une Il y a beaucoup de gens qui se contentent de faire 40 km, c'est le trajet moyen maximum. Donc 120, même pour une infirmière, ça me paraît beaucoup. Et elle peut recharger, donc encore une fois, il n'y a pas non plus de limite. On n'est pas obligé de la faire passer sur des grosses batteries, absolument.
Alors Christelle évoquait la location longue durée. Alors on va s'intéresser là au leasing, au crédit bail, qui permet de louer un véhicule pour une durée déterminée avant d'en devenir éventuellement propriétaire. Alors la location longue durée, c'est quelque chose qui est très usité en ce moment, Fanny Guibert. Enfin, le leasing ou crédit bail.
En fait, vous avez deux types de location qu'on appelle souvent leasing, mais il y a la location avec option d'achat, la LOA, et la location longue durée, la LLD, avec à la fin, vous ne pouvez pas, avec la LLD, vous devez rendre la voiture. Avec la LOA, vous avez l'opportunité, l'option d'achat possible. On n'a pas fait déjà des dossiers là-dessus encore l'année dernière pour signaler quand même les risques qu'il peut y avoir, notamment au moment de la restitution de la voiture, avec des frais supplémentaires. Si vous voulez aussi sortir avant, il y a des pénalités. Enfin, on a déjà pas mal alerté là-dessus. Il reste que ça se développe énormément parce que vous voyez aujourd'hui, toutes les voitures, vous ne connaissez quasiment plus les prix. Vous avez juste la petite mensualité à 129, 329, 429 euros. Mais donc, on ne donne plus le prix parce qu'effectivement, tout le monde est orienté, et ça pour le coup, partout, pour essayer de prendre une option. Et ça représente, je crois, plus de 90% désormais des achats.
Et il existe, Fanny Guibert, le leasing social. C'est un dispositif de location sociale de voitures électriques. L'objectif, c'est de proposer aux ménages modestes des véhicules à moins de 200 euros par mois, c'est ça ?
Oui, et ça, effectivement, il y en a eu déjà trois, si je ne dis pas de bêtises. Il va y en avoir sans doute un nouveau, et c'est une vraie manière de permettre à des gens avec des revenus plus faibles d'accéder quand même à l'électrique. Et c'est vrai que ça a plutôt bien marché encore le tout dernier, à partir de septembre de l'année dernière.
Grégory Galifi.
Effectivement, ça marche bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très incitatif le marché de l'électrique. Si vous enlevez les aides, je ne suis pas sûr qu'on vende autant d'électriques qu'aujourd'hui. Après, effectivement, quand on regarde sur les sites internet de tous les constructeurs, c'est très difficile maintenant de trouver le prix d'achat TTC de la voiture. On trouve souvent effectivement 199 euros, 299 euros par mois, avec ou sans apport au bout de 3 ans. Alors, ça rassure les gens, notamment sur l'électrique, parce qu'il y a toujours cette question de la durabilité des batteries dans le temps. Aujourd'hui, on a une vision sur 8-10 ans, mais sauf que les voitures, pour moi, elles doivent vivre plus que 8-10 ans. Si on prend les petites voitures thermiques dont je parlais tout à l'heure, les petites Panda, les petites Up, les petites Polo qu'on avait il y a 15 ans, 20 ans à 8000 euros, aujourd'hui, elles roulent encore et elles rendent beaucoup de services. Ce ne sera pas forcément le cas des électriques dans 15 ans.
Vous êtes d'accord avec ça, Aurélien Bigot ?
En tout cas, on a des très bons retours sur les durées de vie. Alors, en effet, il y a deux types de vieillissement pour les batteries. Il y a à la fois le nombre de cycles qu'on fait. Donc, plus on fait de kilomètres quelque part, plus la batterie va vieillir. Et puis, il y a aussi le nombre d'années. Et ce qu'on sait, c'est que ces deux types de vieillissement vont un petit peu se cumuler, mais qu'au fur et à mesure, on va avoir un petit peu moins de capacité par rapport à la capacité initiale de la batterie, mais qu'on sait déjà que sur des durées de 15-20 ans, voire plus, en tout cas, pour la majorité des voitures, on gardera encore plus de 80% de la capacité initiale. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, on garde une autonomie qui est assez largement suffisante pour garder les trajets du quotidien quelque part. Après, ça voudra dire peut-être au bout d'un moment, des fois avoir des recharges qui sont un petit peu plus fréquentes, mais par rapport au dimensionnement des autonomies d'aujourd'hui, ça peut être largement suffisant. Juste un chiffre qu'on a aussi dans la dernière enquête de mobilité, on sait qu'en moyenne en France, il y a seulement 6 voyages par personne qui sont à plus de 80 km du domicile. Donc ça veut dire dimensionner toutes les voitures électriques sur des autonomies de 300, 400, 500 km, etc., quand ça ne répond qu'à une très faible fraction des déplacements, eh bien c'est un surdimensionnement qui est à la fois coûteux d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue financier, parce que ça amène du coup à des véhicules qui sont bien plus coûteux. Donc au moins pour un grand nombre de véhicules du quotidien, on peut essayer de se tourner autant que possible vers des véhicules plus légers, plus sobres, et éventuellement y compris des mini-voitures, etc., qui peuvent répondre à ces besoins.
Et nous accueillons Roxane. Bonjour Roxane, bienvenue.
Bonjour.
D'où appelez-vous Roxane ?
J'appelle de Toulouse.
Très belle ville. Dites-nous tout, Roxane. Vous vouliez parler du règne des SUV, c'est ça ?
De la fin du règne des SUV, peut-être, oui. J'espère. Non, je voulais réagir sur les questions de taille des voitures. Ouais. Et ce que vous venez de dire me conforte encore plus dans le fait qu'il faut vraiment revenir à des petites voitures. Moi, pour ma part, je roule dans une C3, une petite C3 achetée d'occasion il y a 6 ans, qui marche très bien. Et je suis vraiment effrayée au milieu de voitures de plus en plus grosses sur la route, surtout depuis que j'ai un petit bébé de, 3 mois. Pour autant, je ne céderai pas à l'appel du SUV, notamment et surtout d'ailleurs pour des raisons écologiques. Voilà, donc vous venez de le dire, ça consomme plus, etc. Et je ne comprends pas qu'on puisse mettre autant d'argent dans des voitures. Aussi, je ne suis pas tellement d'accord avec l'argument technologique, enfin qu'il faut de la place pour rentrer toute cette technologie dans les voitures. J'ai eu la chance il y a quelque temps d'aller au Japon, et au Japon, qui sont pas les derniers je pense en matière de construction de voitures, les voitures sont toutes petites. Et voilà, et je préférerais rouler dans un environnement comme ça pour me sentir plus sereine.
Aurélien Bigot.
Oui, alors en effet, au Japon, il y a ce qu'ils appellent les kei cars, c'est-à-dire des toutes petites voitures, voilà, avec en tout cas des niveaux de poids bien plus sobres finalement que ce qu'on peut avoir en France. Et ça, c'est lié à la réglementation. Donc, c'est-à-dire que si jamais on voulait la même chose en France ou plus globalement en réalité dans l'Union européenne, il faut créer de nouvelles réglementations pour éventuellement de nouvelles catégories de véhicules. À la fois, comme je l'évoquais, il y a déjà des catégories de véhicules qui permettent d'avoir des mini-voitures d'environ 500 kg, qui vont avoir des vitesses de 80-90 km/h, etc. Des autonomies d'une centaine de kilomètres qui peuvent déjà convenir pour beaucoup de ces trajets du quotidien. Mais il y a un questionnement au niveau de l'Union européenne de savoir est-ce qu'il faut créer une nouvelle catégorie de petites voitures qui seraient encore finalement un peu plus intermédiaires entre ces mini-voitures que j'ai évoquées et puis les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec aussi du coup les réglementations, les normes qui existent aujourd'hui et qui peuvent renchérir du coup le coût de production de la voiture. Donc ça, il y a des débats actuellement au niveau de l'Union européenne, mais pour l'instant, c'est une définition assez restrictive de ces petites voitures qui a été retenue, donc plutôt des voitures de moins de 4,20 m. Finalement, il y a beaucoup des voitures électriques qu'on connaît aujourd'hui qui rentreraient dans cette catégorie. Mais en tout cas, c'est une réflexion et des politiques qui sont à poursuivre si on veut avoir des véhicules vraiment beaucoup plus abordables et plus sobres que les voitures électriques actuellement.
Grégory Galifi, sur la crainte de Roxane.
Bah après, ça c'est tout à chacun. Effectivement, je peux comprendre qu'elle se sente pas forcément en sécurité s'il est dans une C3. C'est pas une micro-voiture, la C3, pourtant. Mais si, c'est sûr que face à un énorme Range Rover, mais bon, il y a pas les gens qui roulent en Range Rover ont de très bons comportements aussi au volant. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Aurélien sur les kei-cars. Alors, en japonais, ça veut dire véhicule léger. C'est une réglementation. En gros, c'est des voitures qui font 3 mètres maximum avec une cylindrée de 660 cm3. Eh bien, les kei-cars ne sont pas électriques. Le marché japonais n'est pas un marché très électrifié. Il y a beaucoup d'hybrides, mais c'est principalement un marché thermique. Et à l'époque, quand la France faisait les choux gras du diesel, parce qu'on avait une fiscalité qui était incitative, notamment pour aider les constructeurs français, le marché japonais n'était pas du tout diesel. C'était un marché essence. Les diesels étaient réservés aux bus et aux camions. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Et ça répond toujours en fonction de la réglementation et des besoins de chacun.
Aurélien Bigot.
Oui, je voulais revenir sur l'aspect de sécurité des voitures. En fait, ce qu'on a observé aussi historiquement avec l'augmentation du poids des véhicules, etc., et beaucoup de leur sécurité finalement pour les usagers, les occupants des véhicules, ça a mis en danger par contre ces véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, etc., les autres usagers de la route. C'est-à-dire que d'un point de vue sécurité routière, on a beaucoup insisté pour avoir des normes qui permettent de mieux protéger les occupants, mais pas les autres usagers. Et un autre élément qu'on remarque aussi, c'est que les automobilistes qui ont de plus gros véhicules dans lesquels il y a un sentiment de sécurité qui est plus important, eh bien, du coup, prennent plus de risques. Donc il y a un peu ce double effet. À la fois, ce sont des véhicules potentiellement, par exemple, plus haut pour les SUV, hein, en lien avec la forme du véhicule, donc plus dangereux pour les piétons, pour les vélos, ou même pour les autres automobilistes sur la voirie. Mais aussi, en prenant plus de risques, eh bien, ça entraîne aussi des conséquences plus importantes d'un point de vue accidentalité. Donc là, c'est aussi finalement un argument pour mieux réguler aussi le poids des véhicules, la dimension des véhicules, etc. Et puis insérer ça aussi dans des politiques de mobilité plus globales qui permettent de mieux avoir ce partage de la route entre les différents usagers.
Grégory Galifi.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'on, schématiquement, si on a une grosse voiture, on roule comme un imbécile et on fait attention à personne. D'une part, les constructeurs ont fait des progrès énormes, effectivement, pour la sécurité des occupants, mais également pour la sécurité en cas de choc avec un piéton ou avec un vélo. Vous avez des capots actifs qui vont se rétracter pour éviter que le choc soit violent, notamment pour un piéton. Donc ça, je pense que c'est aussi un petit peu caricatural. Et puis, c'est surtout en matière de comportement. Quand on roule à Paris, notamment beaucoup de deux-roues, beaucoup de trottinettes qui ne respectent pas les feux. Et c'est pas la faute de l'automobiliste, c'est la faute des fois d'un autre usager qui ne fait pas attention au code de la route.
Fanny Guibert ?
Oui, non, juste, je pense qu'il faut... Il n'y a pas à être anti-SUV absolument. Il y a chercher peut-être une voiture abordable et sobre. Je crois que c'est ce que tout le monde veut, quoi qu'il en soit, quelle que soit un peu la carrosserie derrière. Juste par rapport à la sécurité, il y a beaucoup de véhicules aussi désormais où vous n'y voyez plus rien à l'arrière, tellement les vitres ont été rétrécies. Donc vous êtes obligé d'avoir des capteurs, et ça rajoute des capteurs avec des frais dans l'entretien. Et là, on rentre sur des choses où effectivement, ces voitures où en gros, vous ne pouvez même plus faire une marche arrière simplement en regardant dans votre rétro, c'est aussi un problème. Mais ça, c'est des histoires d'esthétique et je sais que
pas
vous
seulement,
aimez bien.
C'est pas seulement de l'esthétisme, parce qu'on a rehaussé la carrosserie des voitures pour la protection des occupants. Parce que les vitres, ça vous protège pas. La tôle, ça vous protège. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les surfaces vitrées ont baissé pour augmenter la protection des occupants, tout simplement. Hein.
Oui. Merci beaucoup Roxane de nous avoir appelé. Alors, vous parliez d'esthétisme, c'est le premier critère d'achat, Grégory Galifi, l'esthétique d'une voiture.
À 53%, effectivement, c'est le premier critère d'achat. Les gens achètent une voiture en fonction du coup de cœur qu'ils ont ou pas. Donc ça, c'est très important.
Quels sont les types de véhicules qui ont le plus le vent en poupe en ce moment? Ce sont quoi? Ce sont les SUV, les berlines, les breaks, les crossovers. Un mot, avant que vous nous répondiez, sur les voitures les plus vendues en France, c'est la Renault Clio, la Peugeot 208, la Dacia Sandero, la Peugeot 2008 et puis la Dacia Duster. Voilà, ça c'est le top 5 des voitures.
Oui, c'est les voitures accessibles. Le marché français a toujours été un marché sur la voiture citadine.
Segment B, compact.
Voilà, effectivement. Après, en Allemagne, c'est plutôt le segment C.
Quoi le segment C?
C'est le segment
un peu plus gros.
C'est de la Golf, ce genre de choses. Voilà. Mais effectivement, après, c'est surtout en fonction des moyens. Il y a bien sûr l'esthétisme, mais il y a surtout ce qu'on peut s'acheter. Et le pouvoir d'achat des Français a baissé, donc forcément, ils se sont toujours reportés sur ce genre de voitures.
Je cite la Centrale à propos de ce classement des 5 voitures les plus vendues dans notre pays. Je les cite, c'est que la voiture reste le miroir de nos choix collectifs. Chaque modèle qui grimpe en tête reflète nos préoccupations du moment, prix serré, praticité en ville, statut social, conscience écologique. La voiture que l'on choisit en dit long sur la société que nous sommes en train de construire entre tradition attachée au thermique et tentation vers l'électrique.
C'est de la littérature, c'est beau ça.
Aurélien Bigot.
Oui, un petit point aussi sur l'évolution ces dernières années. Il y a eu la tendance des SUV qui représente maintenant un petit peu plus de la moitié des ventes. Sur cette tendance-là, elle serait peut-être arrivée un petit peu au bout de cette progression. Quelque part, au bout d'un moment, ça pourrait pas continuer à augmenter indéfiniment. Et on a tout intérêt aussi à revenir à des véhicules qui sont plus aérodynamiques, aussi pour l'électrique, dans le sens où un véhicule qui est plus haut va avoir un moins bon aérodynamisme, donc à capacité de batterie constante, aura une moindre autonomie. Donc si jamais on veut avoir aussi des véhicules qui permettent d'avoir une autonomie assez importante pour les longues distances, on a intérêt aussi à revoir quelque part la forme des véhicules pour avoir des designs qui permettent d'être plus efficace en termes de consommation électrique des véhicules.
Grégory Galifi, au-delà de l'esthétique, quels sont pour vous les critères fondamentaux à prendre en compte quand on veut acheter une voiture ?
Déjà l'usage, l'usage que vous en faites, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est votre pouvoir d'achat. Ce que vous pouvez vous payer. Et après, en troisième, même si effectivement l'esthétique est la première motivation d'achat, après c'est aussi en fonction des cordons de la bourse et de ce que vous avez fait à la banque.
Fanny Guibert.
Oui, alors il y a bien sûr l'usage et c'est bien pour ça qu'on peut choisir en fonction de son kilomètre fait au quotidien, etc. Après, il y a quand même l'entretien qui est là, c'est pour ça que ça plaide quand même un petit peu aussi pour la voiture électrique qui moins coûteuse vu qu'il y a moins de pièces d'usure et que ça s'entretient quand même plus donc à moindre coût, ça c'est pas rien. Et puis il y a effectivement quand même, on a toujours en tête ce qu'on peut en tirer à la revente, d'où le fait que quand vous achetez vous pensez aussi à l'occasion. Donc c'est comme en général les trois points sur principaux.
Et nous accueillons Anne. Bonjour Anne, bienvenue.
Bonjour à tous.
D'où appelez-vous? Bonjour. Anne
de Paris.
Quel est votre témoignage ou question?
Ma question, c'est que je comprends très bien la crise de la filière automobile et les impacts notamment sur l'emploi, et que je me pose une question depuis longtemps. Je me demande si la baisse des ventes de voitures est forcément une mauvaise nouvelle ou au contraire une bonne nouvelle qui pourrait signaler une transition d'une partie de la population vers une autre mobilité, une mobilité qui serait moins polluante, qui est moins polluante et une consommation qui est plus sobre.
Aurélien Bigot, sur la réflexion d'âme.
Oui, alors ce qu'on observe...
En sachant que la voiture, je cite votre livre Aurélien Bigot, la voiture occupe 60% de nos mobilités en nombre de trajets, en temps de transport ou en distance parcourue.
Oui, c'est le mode assez largement dominant. Ce qu'on a observé depuis le Covid, c'est à la fois le nombre de kilomètres parcourus en voiture entre 2019 et 2024 est en baisse. Les ventes ont été en forte baisse, donc on pourrait croire quelque part à un effet d'une transition des mobilités. En réalité, quand on regarde les choses, ça a été davantage des éléments assez subis. On a déjà beaucoup revenu sur la question du prix des voitures qui explique pour beaucoup la baisse des ventes. Et sur la baisse des kilométrages, ça a été aussi subi en bonne partie en lien avec l'augmentation du prix des carburants, en lien avec l'inflation de manière générale, etc., les effets potentiellement un peu rémanents du Covid. Donc le Covid a pu accélérer certaines tendances, par exemple sur le développement du vélo, sur le développement du télétravail, etc. De là à savoir si jamais c'est ça qui explique des transitions beaucoup plus fortes, c'est un peu en débat, mais en tout cas, il n'y a pas eu de transition suffisamment importante par rapport notamment aux objectifs environnementaux qu'on peut se fixer. Il y a besoin aussi d'accélérer sur ces aspects-là. Alors, à la fois à Paris, certes, ça a beaucoup bougé ces dernières années, mais l'enjeu, c'est que ça se fasse aussi sur d'autres territoires, y compris des territoires moins denses, qu'il y ait davantage d'alternatives à la voiture qui soient proposées, parce que pour beaucoup de personnes, la voiture, c'est une situation un peu aussi de dépendance, de manque de choix alternatifs. Tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser sa voiture, aimerait faire autrement, mais pour cela, il faut proposer les alternatives et qu'elle soit suffisamment efficace.
Grégory Galifi.
Effectivement, les alternatives, encore faut-il pouvoir les créer, parce qu'on parle de Paris. À Paris, on a effectivement le bus.
Il n'y a pas que Paris.
On a le bus et le métro. Mais voilà, dès que vous sortez du périphérique parisien, il faut souvent une voiture, parce que la liberté, elle passe par votre voiture. Vous savez, les gens en province, à 18 ans, et un jour, ils ont passé leur permis de conduire. Ils ont fait la conduite accompagnée à 16 ans, parce que c'est vraiment un symbole de liberté. C'est une nécessité. Alors, si on trouve effectivement d'autres alternatives sûres qui permettent un transport des gens H24, pas de problème. Aujourd'hui, on n'a rien fait de mieux que la voiture.
Fanny Guibert.
Oui, très clairement, il ne s'agit pas d'être anti-voiture avec tout ça. Moi, ce que j'aimais bien dans le livre d'Aurélien Bigot, c'est qu'il disait bien quel véhicule pour quel usage. Et c'est là où on peut se dire qu'effectivement, selon où vous habitez, mais ça peut être aussi, du coup, si vous faites des allers-retours entre un petit village et une ville un peu plus grande à côté, vous pouvez le faire ça avec une amie, la petite Citroën qui n'est pas chère et qui est sans permis même. On n'est pas obligé d'avoir des gros véhicules pour tout. Et vous avez des parcours que vous pouvez faire à vélo. Si vous n'êtes pas capable de pédaler ou si ça fait trop loin, vous pouvez prendre autre chose. Mais c'est vraiment essayer de re-réfléchir, de ne pas simplement prendre une voiture pour tout faire, et c'est ce qu'il explique bien dans son bouquin, mais d'avoir un véhicule pour les usages. Alors après, on ne va pas multiplier non plus les véhicules chez soi, on peut prendre une trottinette, tout ça, mais en tout cas, c'est intéressant de réfléchir à ça.
Merci beaucoup Anne de nous avoir rappelé. Dans un instant, eh bien, on évoque le dossier de 60 millions de consommateurs voitures électriques. Eh bien, est-ce qu'elles sont devenues plus abordables? On va voir ça juste après le disque, juste après avoir écouté Mickey. Ça pique un peu quand même. 10h49 sur Inter.
Dans ses yeux pistaches, je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux quand tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, y'a rien à faire. Je raccroche mon tête, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais ça pique, pique, pique un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Je vis comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des tailles, mais des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic. On peut quand même, bip bip, c'est fou l'air. fait pic 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 pic, ça fait.
Mickey interprété, ça pique un peu quand même.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, comment choisir sa voiture, qu'elle soit thermique, électrique ou hybride, avec les journalistes Grégory Galifi, avec Fanny Guibert, rédactrice en chef à 60 millions de consommateurs, avec le chercheur Aurélien Bigot. Fanny Guibert, dans 60 millions de consommateurs, vous nous dites donc que le prix des voitures électriques est enfin devenu plus abordable. 363 000 véhicules 100% électriques neufs immatriculés en 2025, et des prix qui ne cessent de baisser, c'est ça ?
Oui, il y a effectivement une baisse des prix sur certains véhicules, et il y a surtout ce qu'on essaye d'accompagner avec ce dossier, l'arrivée de nouveaux véhicules plus petits et plus nombreux, et qui permettent désormais d'avoir accès à une vraie voiture, à un prix un peu, on n'est plus dans les 30 000 euros qu'il pouvait y avoir, ou les plus de 25 000 euros qu'il pouvait y avoir.
Et pour la première fois, il est possible de payer moins cher une voiture électrique neuve que sa version essence ?
Oui, ça c'était l'accroche de Citroën par rapport à sa IC3, mais c'était en tenant compte de l'aide pour les ménages les plus modestes, donc 5 700 euros, ce qui n'est pas accordé à tout le monde, mais tout le monde peut avoir 3 500 euros d'aide avec les coups de pouce, et du coup l'écart était que de 500 euros avec la version thermique pour la C3. Donc voilà, c'était un signe, une manière de montrer que ça avait baissé.
Comment expliquer cette baisse des prix des voitures électriques
Vous avez aujourd'hui quand même une volonté de les vendre, et parce que moi j'ai encore regardé hier pour préparer cette émission, et c'est vrai que vous avez des remises qui sont accordées régulièrement, au-delà même des coups de pouce et des aides de l'État. Vous avez des constructeurs qui vous offrent 2000 euros par-ci, 3000 euros, donc il faut vraiment les guetter, il ne faut pas hésiter, parce que il faut à un moment qu'ils arrivent à vendre leur voiture, et comme elles sont trop chères, ils essayent quand même de les faire passer.
Aurélien Bigot.
Oui, mais alors sur le prix des voitures électriques neuves, ce qu'on observe, c'est que pour des voitures électriques d'environ une tonne, c'est à peu près 20 000 euros à l'achat. Et pour des voitures électriques de 2 tonnes, c'est à peu près 50 000 euros à l'achat. Donc à chaque fois qu'on augmente le poids de 100 kilos, en gros, on augmente le prix de 3 000 euros environ. Donc ça, c'est un peu une moyenne quand on regarde les différents modèles de voitures électriques qui sont proposés. Donc c'est là aussi où, si on veut aller vers des véhicules plus sobres, c'est des véhicules moins coûteux. Quelque part, ce sont aussi des véhicules qui sont plus légers. Après, toute la question, c'est en effet de voir par rapport aux usages, comme on a pu l'évoquer. Donc c'est là où on voit, en tout cas dans les différents pays européens, que pour l'instant, il y a encore besoin de certaines aides pour pouvoir favoriser l'essor de l'électrique. Et pour l'instant, on a plutôt tendance à être un peu en retard par rapport aux objectifs climatiques qu'on s'était fixés sur le développement de l'électrique. Donc il y a encore des accompagnements de ce type-là qui sont à faire du côté de la demande. Et puis aussi, on le voit du côté de l'offre. Si on veut relocaliser quelque part les chaînes de valeur et faire en sorte que ce soit l'industrie européenne, idéalement même française, qui produise ces véhicules électriques, il y a aussi besoin d'une planification, d'une stratégie de ce point de vue-là, en lien avec l'industrie automobile, mais aussi les gigafactories de fabrication de batteries.
Grégory Galifi.
Le problème par rapport à ça, c'est qu'on est complètement dépendant des Chinois. Vous prenez sur les 10 plus grandes sociétés qui fabriquent des batteries dans le monde, 8 sont chinoises, 2 sont coréennes. 70% de la production mondiale de batteries et 60% du raffinage du lithium est fait par les Chinois. Donc ça va être difficile d'être compétitif, sachant qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont leaders sur la technologie, et avant qu'on les rattrape, il va se passer du temps.
Et c'est vrai que vous avez raison, le développement de l'électrique nous rend dépendants de nombreuses chaînes d'approvisionnement mondial, le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, l'électricité. Et c'est vrai que les principaux producteurs des métaux nécessaires à nos batteries se trouvent en Australie, en Indonésie, en République démocratique du Congo, au Chili, en Chine, Aurélien Bigot.
Oui, en effet, il y a des enjeux de dépendance et de chaînes d'approvisionnement qui sont à prendre en compte. C'est plus facile de relocaliser quelque part la fin de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois la production, l'assemblage des voitures, ou même les batteries en tant que telles, où on voit qu'on a déjà un certain nombre de projets ou de gigafactories de production de batteries qui sont déjà ouvertes en France, en particulier dans les Hauts-de-France. Donc il y a des parties de la chaîne de valeur qu'il est possible de relocaliser. Sur le lithium aussi, on sait qu'on a du lithium lithium en France qu'on peut extraire. Il y a déjà des projets dans ce sens-là. Après, il y a d'autres chaînes, d'autres parties de la chaîne de valeur qui sont plus difficiles à relocaliser. Notamment, on sait qu'aujourd'hui, la Chine concentre à la fois beaucoup la fabrication des batteries, mais aussi beaucoup le raffinage des métaux. Ces parties-là, on peut aussi essayer progressivement de relocaliser la chaîne de valeur pour être moins dépendant. Et après, juste un élément de contexte, c'est que malgré tout, aujourd'hui, on est extrêmement dépendant avec le pétrole qu'on importe à 99%. On voit bien à quel point on est vulnérable dans notre mobilité. À chaque fois qu'il y a des événements géopolitiques, comme c'est le cas ces derniers jours, ces derniers mois. Donc c'est aussi se séparer de cette dépendance-là qui nous coûte des milliards, des dizaines de milliards d'euros chaque année aussi, qui est importante en sortant du pétrole.
Lucille, on termine avec vous. Vous appelez d'où, Lucille ?
Oui, bonjour. J'appelle du Nord-Isère.
Alors, quel est votre témoignage ?
Une petite ville de milieu rural. Et donc, ce que moi, je voulais dire, c'est que nous, donc on est une famille de deux adultes et trois enfants. Et on vit en une seule voiture. On peut se le permettre parce qu'on télétravaille avec mon mari de manière alternative. Et quand on a besoin d'aller au travail, on arrive à covoiturer jusqu'à la gare. Et donc, ça nous fait pas mal d'économies. Et puis, ça nous pousse aussi, alors c'est une grosse contrainte, parce que ça nous pousse aussi à revoir la manière dont on se déplace quand la voiture n'est pas disponible, à utiliser un peu plus le vélo ou à solliciter du covoiturage. On a de la chance, on a de la famille aussi qui peut nous prêter une voiture vraiment quand on est coincé. On a fait le choix aussi de louer une voiture au supermarché du coin quand on a besoin. Et notre voiture, donc notre unique voiture, elle est électrique. Alors ce que je trouve, donc c'est vrai que c'est une contrainte, mais ça nous fait gagner beaucoup d'argent. Ce qu'on aimerait, c'est que le système de voitures partagées soit un peu plus développé, qu'on puisse plus facilement louer ou emprunter. En respectant des problématiques d'assurance, mais que ce soit plus facile entre voisins.
Merci. Merci beaucoup, Lucille. On arrive, hélas, au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup, Grégory Galifi. Je recommande votre chaîne YouTube qui porte votre nom.
Tout simplement.
Voilà,
merci.
Tout simplement. On peut vous retrouver sur votre compte Instagram.
Et une vidéo tous les jeudis à 18h. Donc, en plus, on a une nouvelle vidéo. C'est En voiture avec. C'est une personnalité qu'on interroge sur la mobilité et l'autonomie.
Et ce sera ce soir à 18h. Merci, Aurélien Bigot. Voiture fake or not fake. C'est publié chez Tana. Merci, Fanny Guibert. Votre dossier de 60 millions de consommateurs est à lire ce mois-ci, demain dans Grand Moi Vous Fasse Weekend. On s'intéresse aux vertus consolatrices de la poésie avec l'auteur des Yeux de Mona, Thomas Schneesser, et avec Jean-Joseph Julot.